Xavier Lépine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire de La Française. On va parler avec vous d'économie et de politique. C'est vrai que les investisseurs ont regardé avec attention toutes ces échéances politiques. Il faut dire qu'on a eu droit au Brexit, on a eu l'élection de Donald Trump, on a aujourd'hui Emmanuel Macron en France. Votre analyse justement de la situation. Bon, d'abord, c'est sans doute un ouf de soulagement des investisseurs, on l'a vu. Mais aujourd'hui, il y a des attentes par rapport à ce qui s'est passé justement sur ces pays occidentaux.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux mouvements qui s'opposent. On a une économie mondiale qui, objectivement, s'est reprise depuis la crise et est de nouveau en croissance relativement significative. Et en même temps, sur le plan politique, une dégradation certaine des démocraties au profit d'un populisme fort. Donc, l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est effectivement, c'est une chance pour non seulement la France, mais pour l'Europe, voire pour l'Occident, de dire voilà, on va peut-être maintenant inverser et faire converger l'économie et le politique. Auquel cas, si on a la conjonction de ces deux courbes qui étaient parties pour se croiser dans le mauvais sens et qui maintenant convergent, c'est plutôt un très bon signe pour les investisseurs, et pas que pour les investisseurs.
Justement, cette mondialisation, on voit souvent une seule face de cette mondialisation, c'est bien sûr les délocalisations, les conflits, les sites qui ferment. On a eu beaucoup de sujets au cours de la campagne électorale. On parle rarement de l'autre côté, c'est-à-dire les millions, les centaines de millions de personnes qui étaient dans la pauvreté, qui sont aujourd'hui, qui ont un niveau de vie, on pourrait dire, de classe moyenne européenne.
Oui, la réalité, c'est que on est tombé dans un tel niveau de baisse pour les classes moyennes qu'on en oublie les milliards de personnes qui, effectivement, sont sorties de la pauvreté. Et en fait, on ne voit plus dans la globalisation que l'aspect négatif et non pas l'aspect positif qui a eu lieu depuis 30 ans. Donc, il faut bien évidemment en prendre compte. Le mouvement de Mélenchon, c'est clairement le retour des luddites du début du 19e siècle, c'est-à-dire ces ouvriers qui cassaient les machines de peur que les machines les remplacent. C'est effectivement le sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est aujourd'hui, maintenant, que se passent toutes les transformations, disons, technologiques, et qui peuvent effectivement amener, si on les gère bien, le retour d'une croissance positive, y compris pour l'emploi.
On pourrait dire qu'on a eu cette mondialisation avec ses effets. On a cette transformation digitale dont on parle beaucoup en ce moment. On pourrait dire qu'on retrouve les mêmes peurs, puisque on parle des robots, remplacement par des robots, le fait que des tâches avec l'intelligence artificielle vont être occupées par tel ou tel objet, effectivement, connecté. Comment on explique ce qui est en train de se passer?
Ben, je crois que la technologie, la force de la technologie aujourd'hui, c'est finalement une opportunité merveilleuse, puisqu'on voit bien que si on était resté ou si on reste sur le terrain de la globalisation traditionnelle par les coûts salariaux, on ne peut pas s'en sortir dans des pays riches. Si on passe maintenant par une technologie qui relocalise, qui permet notamment la transition énergétique, puisque l'activité. Disons, énergie, c'est la première activité au monde. Donc, toute cette transition-là, toute cette relocalisation envisageable par les imprimantes 3D, par tous les services associés, font que, effectivement, ça créera des emplois à très forte valeur ajoutée d'un côté, localisés ici, et des emplois également à faible valeur ajoutée, localisés près des centres de production, c'est-à-dire dans les pays occidentaux. L'enjeu, il est là. Il n'est pas d'aller dire je vais relocaliser des activités qui, objectivement, n'ont pas d'avenir. C'est toujours la même problématique de la création destructrice.
On a souvent parlé des rentiers, voilà. Alors on l'a parlé sur les plateformes, notamment avec les VTC, où à chaque fois qu'il y avait une nouvelle plateforme, notamment américaine, qui venait s'installer, on avait ces batailles qui se déroulaient. On a l'impression tout de même aujourd'hui, quand on regarde les entreprises, qu'elles vont utiliser de plus en plus de plateformes, dans tous les secteurs d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, les rentiers, c'est traditionnellement le capitalisme qui, lui, cherche toujours à protéger sa rente. Ce qui est assez amusant et intéressant aujourd'hui, c'est de voir que les mêmes rentiers disent il faut protéger notre économie parce qu'il faut protéger l'emploi. À mon sens, c'est un peu hypocrite. La réalité, c'est qu'ils cherchent à protéger leur rente parce que les nouvelles technologies font qu'il n'y a plus aucun métier protégé et plus aucun capital acquis protégé. C'est une réalité, et ce qui est assez, une fois de plus, très intéressant, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les 5 à 10 années qui viennent est finalement beaucoup plus puissant que ce qui s'est passé depuis 30 ans.
Donc ça veut dire qu'il faudra faire de la pédagogie, qu'il va falloir quand même expliquer peut-être mieux qu'on a pu le faire avec la mondialisation, dont on a vu voilà, que les effets négatifs, ces
Alors,
transferts d'activités en Europe ou en Chine.
La mondialisation a créé une schizophrénie dans l'esprit de dans l'esprit des gens, c'est-à-dire je suis content d'acheter des choses pas chères, mais malheureusement elles ne sont pas produites par moi. Bon, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de trouver un modèle économique et social qui fasse que tout ce qui est fait finalement par les automatismes ne se traduise pas par une perte supplémentaire d'emploi. Là, effectivement, peut-être Camon est un grand visionnaire sur le revenu universel. Moi, je parlerais plutôt de revenu minimum. Je vois par exemple un pays comme la Belgique, qui est quand même pas très loin. Par exemple, quand on paye avec l'équivalent de nos tickets pour payer les femmes de ménage et autres, eh bien, il y a un complément de revenu qui est versé par l'État à la personne. Et donc on va vers cette notion de revenu minimum et non plus de salaire minimum.
Et ça, c'est pas tabou chez les financiers, justement. Il y a une vraie réflexion là-dessus.
Je pense que celui pour qui c'est tabou, il est mort. Je veux dire, il ne le sait pas encore, mais les financiers, les assureurs, les banques doivent repositionner leur véritable métier. Leur véritable métier, c'est quoi? C'est des services, c'est pas de l'intermédiation. Je vais prendre un exemple très simple. Prenez les besoins primaires des gens. Dans la pyramide de Maslow, c'est la santé, le travail, le logement. Quel est le rôle aujourd'hui des banques et des assureurs? Si c'est de se faire de la compétition sur les coûts, ça se terminera mal. Il faut peut-être baisser les coûts, mais il faut développer de nouveaux services.
Du côté si on termine sur les marchés, ce qui s'est passé avec cette période toujours très longue de taux bas, on a bien vu les investisseurs obligés d'aller sur les actions, chercher du rendement, mais c'est la quête du rendement qui reste aujourd'hui pour tout investisseur. Alors, comment on gère ce rendement risque aujourd'hui? Où on va?
Alors, le rendement risque de l'ensemble des actifs est inférieur à 1. C'est-à-dire, il est à 0, quelque chose. C'est-à-dire que l'espérance de rendement par rapport au risque de perdre est toujours négatif. C'est assez unique dans l'histoire. Donc, si on gère de la même manière que l'on gérait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça ne va pas le faire non plus. Donc, la véritable stratégie aujourd'hui, c'est comment dire, c'est d'une part d'imaginer le type d'actifs qui seront porteurs demain, et d'autre part, c'est effectivement d'investir dans le futur. Que ce soit en action ou en obligation, c'est d'ordre 2. Ce qu'il faut, c'est fondamentalement se poser la question, où va l'économie? Après, les sous-jacents, c'est pas. Si on comprend, c'est pas très grave. Il y en aura aussi bien dans les taux que dans les actions.
Merci à Xavier Lépine d'avoir fait le point avec nous.
Je vous en prie, merci.